Bien, je te laisse peut-être lancer notre invité.
Oui, alors,
la pièce.
Pas trop fort, hein.
Ouais, on va casser les trous.
Faut éviter.
Bah, Isabelle, moi je l'ai connue ici, avec mon café. Et puis, grâce à Patricia. Donc elle nous a, elle m'a fait lire d'abord son recueil de poèmes sur son expérience des maraudes. Et tout de suite, moi j'avais été un petit peu éblouie par la texture, la qualité littéraire de sa poésie. Et donc je l'ai fait lire à Jean qui m'a vite rejoint dans cette sensibilité là et du coup voilà, donc on lui a proposé cette intervention ce soir à partir de ses expériences de soins, des maraudes, de comment est-ce que la poésie nous aide finalement à aller à la rencontre de l'autre et à construire un autre visage.
Tu as 20 minutes.
Au milieu de leur trop-plein de mots, de leur discours rodé, de leurs bons mots pour rire, pour faire du bruit, qui font qu'on existe, sous les cheveux gris, un visage se lève, de lune blanche, et dans ses yeux bleu pâle, plus pâle encore, le silence. Mot après mot, rien à dire, Bénédicte. Seules ses boucles d'oreilles et une bague qu'elle a au doigt, dans la nuit scintillent. La poésie partant de la terre, c'est le premier millimètre d'air au-dessus d'elle. Ça, c'est Marina Tsvetaeva qui le dit. Pierre Reverdy dit quant à lui que la poésie est seule à pouvoir nous faire passer d'un plan conventionnel où on ne respire plus, au plan réel de l'espace où circule l'air pur. La parole poétique ne sait pas. Elle ne cherche pas non plus l'assurance. Elle n'est pas non plus un discours dans une succession de discours qui donne le sentiment que tout s'explique ou pourrait s'expliquer. Elle n'est pas non plus parole d'expert et de professionnel. Elle n'est ni communication, ni transmission d'informations, ni production de sens. La poésie, en s'ouvrant à l'inconnu, se fait la parole la plus pauvre. Elle dit la vérité, c'est même une quête de vérité sans compromis. Elle cesse de faire semblant, elle arrête les conneries. Elle met la parole en faillite, elle s'expose nue à ce qui est. Aussi, rien de moins poétique que la poésie. Là, j'aime bien cette phrase. Et sa parole seule ne prouve rien, ne convainc pas et ne cherche pas à convaincre. Elle est sans argument. La poésie est une expérience résolument personnelle et l'expérience d'un autre ne peut servir. Car la poésie est l'épreuve de chacun, la seule à ne pouvoir être collective, l'ultime épreuve de liberté. Elle est l'affirmation d'une singularité assumée. La parole poétique est une parole qui fait effraction et qui s'adresse à l'homme, du commun, à quelqu'un, à l'autre homme. Pour cette raison, elle est simple. La poésie est une main tendue, car il n'existe, rappelle Paul Celan, aucune différence de principe entre une poignée de main et un poème. Cette poignée de main m'amène tout naturellement à la rencontre. Car à l'origine de mes textes, que j'appelle mes photographies de mots, des patients ou des personnes dans la rue, il y a la rencontre que je fais avec eux et qui fait effraction, quelque chose de la violence du réel que mes mots tentent d'apprivoiser en donnant sens à l'insensé, en humanisant leur façon de vivre, l'approchant le plus subjectivement possible par mes émotions et mon regard. J'aime la définition qu'en fait Boris Cyrulnik. Dans la rencontre, il y a de l'affrontement, comme dans la rencontre de boxe. En effet, l'action d'aller vers quelqu'un qui vient nous donne une explication proche de ad gregior, marcher vers, qui a donné naissance au mot agression. À l'origine du mot rencontre, il y a en fait du combat. Pénétrons à présent là où a lieu la rencontre avec les patients et les personnes dans la rue. Suivez-moi d'abord en maraude dans le camion cahotant du SAMU social. Nous roulons dans la nuit à la recherche des personnes signalées par le 115. Les lieux, rues, quartiers prennent une couleur différente la nuit, bien souvent à l'écart des éclairages, devant des magasins fermés, dans des endroits cachés, abandonnés, dégradés, en tout cas inadaptés à y accueillir des hommes, des femmes et encore moins des enfants. Au premier regard et contact, les personnes sont bien souvent réservées, comme gênées, en manque d'estime d'elles-mêmes, renfermées, méfiantes, vulnérables. Même si parmi cette description, des personnes émergeront très différentes pour me contredire. Des personnes sur la défensive, volubiles, fières, voire arrogantes et exubérantes, mais comme pour mieux masquer leur vulnérabilité. Devant elles, je me tiens à la fois pleinement présente, pleinement perméable et poreuse à tout ce que je vois, entends, ressens, comme si je savais la rencontre éminemment fugitive et précaire et qu'il ne me fallait en perdre la moindre miette. Souvent, il s'agit de les écouter parler, mais aussi savoir garder le silence pour respecter le leur, leur difficulté à être, à se raconter, à se confier. C'est une démarche particulière, c'est moi qui vais vers eux, la rue étant chez eux. Du coup, je me fais très discrète. Au début de la rencontre, et comme j'ai ma caisse de livres de 2 citres, je me tiens à côté d'elles pour me donner une légitimité. Tout comme eux, qui après avoir pris leur colis au camion, viennent me parler au-dessus des livres comme au-dessus d'un feu de bois. Le lien se fait plus facilement ainsi à travers les livres, puis au fur et à mesure de mon expérience, je m'en passerai complètement, sachant que le plus important est ailleurs, dans la contenance d'un regard agressif, la réassurance d'un regard inquiet, l'écoute d'une détresse, l'enveloppe d'une solitude. Ma rencontre avec ces personnes, tout comme mes textes en témoignent, contient beaucoup de silence, d'écoute, de respect. Il s'agit de créer un lien, mais dans une alliance. Il s'agit de proposer un café, un colis, un livre, mais il s'agit aussi d'offrir ma présence, mon écoute, et de laisser advenir la rencontre, ou pas. Surtout ne rien précipiter, ne pas effaroucher, savoir se tenir prêt, tout en sachant se tenir silencieuse et à la fois accueillante. Souvent, les échanges commencent dans la banalité et peuvent le demeurer si la personne n'ouvre pas sa porte. Mais il s'agit de créer une amorce qui facilitera l'ouverture de la porte de maraude en maraude. Parfois, les échanges sont si douloureux que les personnes les gardent pour eux. Un lien plus profond peut faire peur. La personne peut la prochaine fois rester en retrait, en tenir compte, comme dans un duo musical, savoir s'ajuster à l'autre, au moment de l'autre. Ça va ? Franchissons à présent la grille de l'hôpital psychiatrique, à l'intérieur des unités d'hospitalisation. Un immense couloir, des portes qui s'ouvrent et se ferment à clé, des salles d'isolement dont on me dit que les éducateurs n'ont pas de rôle à y jouer. Des salles d'apaisement dont je cherche sur la nudité blanche des murs et le vide de l'espace ce qui peut apaiser, sans musique, sans même un fauteuil, d'une odeur indéfinissable, mais si l'angoisse en avait une, ce serait celle-là. Lieu sans aucune beauté, juste un matelas au sol. Ensuite, nous cherchons les soignants, souvent regroupés dans leurs bureaux ou salles de pause, dont l'étrangeté des propos percute mes oreilles. Telle a étalé ses selles à la Pollock, telle a jeté son plateau au sol, telle autre a chargé pendant la douche, telle autre encore est très haut, logoréique, etc. Enfin, les patients, adultes avec déficience intellectuelle moyenne à sévère, autisme, psychose, avec, mais aussi souvent sans langage, soit en chambre, soit dans le couloir, toujours près du bureau des soignants, mais toujours à attendre, attendre, sur le quai d'une gare, comme attendre un train qui ne vient pas. Ce couloir, tout comme les chambres, les douches et salles de repas, seront mes premiers lieux de rencontre avec les patients. Des lieux inhospitaliers, froids, gardant trace d'une violence. Mais au début, c'est une autre violence que je subis, celle de la confrontation avec le manque par le réel, dans la mesure où je suis agressée par mes sens, la vue, les odeurs, les contacts, les cris. Tout d'abord, je l'ai trouvée sans mots devant moi, sans mots devant moi, juste leur visage, leur corps, leur son, leurs cris, leurs gestes, et pour les voir tels qu'ils sont, j'ai dû me taire et les regarder sans mots moi non plus. Sans pensée, sans théorie ni méthode. Tout ce que je savais, c'était tu. Entre parenthèses, un savoir-être et un savoir d'expérience et de formation tout au plus complètement intégrés en moi. Pour qu'arrive l'émotion en rien encombrée, l'émotion nue. Les voir sans filtre aucun, capter toute sensation venue de leur corps, de silence et de cri. Bernard Duret dit « Tout se passe comme s'il n'y avait là, par la rencontre avec ces corps abîmés, absents de parole, que du réel immuable, à la fois répétitif et hors du temps. Cette agression, chacun la reçoit comme il peut, comme il est. L'émotion est si forte que l'intellect se bloque. » Elle n'est que cri, refus, frappe, coup de talon au sol, dos qu'elle recule, table qu'elle pousse, doigt qu'elle enfonce dans son cou pour crier encore plus fort jusqu'au cri le plus strident. Elle est aussi regard, noir qui nous scrute, caché derrière ses vagues de colère, main qu'elle met dans la mienne un court instant, geste vers la porte nous interrogeant. Ça parle autour, ça cherche, le dialogue, les informations, ce qui a changé dans son environnement, le meilleur traitement, la prescription. J'ai posé mon crayon, mon cahier, la regarde, lui parle, essaie de tenir en respect ses hautes vagues, son bruit d'océan, me laissant toujours plus au bord, obstinément. Alors je me suis interrogée sur la poésie, est-ce qu'elle soigne ? Est-ce que le processus d'écriture est soignant ? Est-ce qu'il est là pour soigner ? Écrire ses expériences avec ces personnes s'est présenté comme une nécessité pour sortir de moi l'émotion vécue, le trop-plein, car écrire permet de mettre en mots, en images, en musique. Donc pétrit, allège, élargit vers une vision plus vivable, ce qui serait trop lourd, trop souffrant, et envahissant pour moi et pour le lien avec les personnes. Une fois le portrait écrit ou la rencontre, je peux revenir à la personne sans être encombrée par l'effraction et le trop d'émotions qui pourraient être délétères pour rassurer, contenir, apaiser, puisque le trop-plein est sur le papier et que j'en étais apaisée moi-même. C'est un processus de transformation du matériau brut, violent, en une matière plus légère, plus adouci. C'est peut-être sur ce point de transformation que poésie et soins se rencontrent, fusionnent, pour permettre un lien, un travail bien particulier, car singulier, du sur-mesure, de l'intime, du silencieux, affinité silencieuse bien loin des protocoles de soins, des règles de maraude, dans un face-à-face ou un côte-à-côte profondément humain, entre les personnes et moi, et qui soutient ma relation et mon travail auprès d'elles. Donc en mettant un peu ça en lumière, Nathalie, j'ai pensé à Bion, le psychologue, qui a mis ça en des mots de psychologue, qui parle lui de la transformation des éléments bêta en alpha grâce à la rêverie maternelle, et c'est un peu ce que je fais en écrivant la poésie et en mettant en mots. Et du coup, Nathalie, je voulais que tu le dises avec tes mots simples.
Avec des mots
simples. Parce que moi, je ne suis pas psychologue.
Voilà. Avec des mots simples, mais j'ai quand même eu besoin de réviser un peu.
Ouais.
C'est un psychiatre et psychanalyste anglais, Bion, qui est né juste avant 1900 en Inde britannique et qui est mort dans les années 70, donc 1970. C'est un pionnier de la psychothérapie de groupe. Et qui s'est intéressé, un pionnier de la théorisation sur la psychose. Il était intéressé pour modéliser un peu ses conceptions de façon un peu mathématique. Alors, il a parlé d'une fonction, comme en mathématiques on parle des fonctions, pour dire que finalement, le rôle de la mère ou des parents, hein, de l'environnement maternant vis-à-vis du tout petit, celui qui n'a pas encore accès au langage, celui qui est parlé par les autres, mais qui n'a pas encore la parole, le rôle de la mère, de l'environnement maternant, c'est finalement de se mettre en contact avec des ressentis que l'enfant, auxquels l'enfant ne peut pas accorder ni mots ni sens. Des choses qui ne sont pas digérables pour lui, et que finalement, après sa naissance physique, l'environnement maternant, il va être là pour sa naissance psychique, en rendant ses vécus, ses ressentis du bébé, tout ce qui lui vient aussi par les différents sens, en les rendant assimilables. Et il appelle ça la fonction alpha, c'est-à-dire qu'il appelle élément bêta tout ce qui est brut, tout ce qui n'est pas digeste, tout ce qui ne peut pas se transformer en pensée, tout ce qui est trop brut pour être transformé en pensée, eh bien finalement la mère va essayer, la mère ou les parents vont essayer, ceux qui sont là pour l'enfant vont essayer de comprendre, vont être traversés eux-mêmes par des émotions très fortes, et ils vont essayer de trouver des mots, de se représenter qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'ils vont se mettre à en parler au bébé. « Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre chéri ?» Et bon, voilà, il va y avoir le ton, il va y avoir... C'est comme une rêverie qui rend les choses digestes, assimilables. Et petit à petit, l'enfant va pouvoir, à force de côtoyer cet environnement qui lui renvoie ses ressentis, mais d'une autre façon, en élément alpha, il va pouvoir créer sa propre fonction alpha et se mettre à jouer avec ses pieds ou sa main, avec des morceaux de son corps, avec son environnement. Voilà, petit à petit, il accède à une vie psychique, à une intériorité, en étant passé par cette capacité de rêverie, cette fonction alpha de son environnement. Et petit à petit, lui-même va se mettre à pouvoir avoir des pensées, des images. On ne sait pas exactement quoi, on ne se souvient plus. Hein. Mais en tout cas, il pourra attendre un peu plus, il pourra se tranquilliser lui-même, il pourra se laisser porter par sa rêverie.
Merci. Exactement ça. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu qu'au début, quand Lia, tu m'as dit est-ce que la poésie soigne, tu m'as vraiment, c'était une colle pour moi, je n'ai jamais pensé à ça. Et après, quand j'ai commencé à écrire, en écrivant, on découvre des choses finalement. J'ai découvert, je me suis dit mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ce qu'a dit Bion, quoi. C'est recevoir les émotions de l'autre, brut, vraiment avec des cris, enfin vous imaginez, les gestes, tout ça. Et puis. Les mettre en mots dans un texte, et puis après revenir à la personne beaucoup plus apaisée soi-même déjà, et puis capable du coup de pouvoir apaiser l'autre, et puis de recevoir l'autre de manière beaucoup plus sereine, et puis en donnant un sens à tout ça, quoi. Et là oui, je peux dire oui après ces textes là après je vous parlerai d'un patient notamment que j'ai accompagné sur une longue durée, où s'est instauré ce lien qui a progressé, et j'ai pu l'accompagner vers des mots, vers une attitude qui le sortait de sa façon archaïque de vivre. Voilà, parce qu'il y a des personnes en psychiatrie qui ont une vie très archaïque, très proche de... Voilà, et du coup, voilà, j'ai un peu touché du doigt. Du coup, je te remercie parce que c'est toi qui m'as poussé un peu à... J'y avais pas pensé comme ça. Ouais. Après, je vais parler un petit peu du regard, et après je reviendrai aux exemples. Donc, je me suis aussi interrogée sur le regard poétique. Et du coup, je ne savais pas trop non plus, je n'étais pas trop sûre de moi. Je me disais, est-ce que c'est quoi un regard poétique ? Et donc, j'ai un petit peu été voir un petit peu sur un très beau livre qui s'appelle « Le traité du regard », et c'est de la méditation sur le regard. Et donc j'ai mis un petit peu comme ça les réflexions qui me parlent moi. Il faut d'abord observer de quelle manière nous entrons en contact avec une personne. Nous n'avons a priori pas conscience de ne pas voir ou de voir superficiellement, par fragments sélectionnés et comme traduits dans le langage de nos représentations personnelles. Seule doit s'imposer l'apparition neutre et claire de ce qui se passe. Un écart se creuse alors entre l'observateur et son observation, un peu de jeu pour que puisse s'envisager la possibilité d'un autre regard. Très vite, l'attrait de cette fraîcheur développera en nous une disponibilité à l'inattendu, un intérêt désintéressé pour les diverses manifestations du réel. Il faut un sens aigu de l'instant, du ressenti, une sorte d'introspection qui n'a rien de psychologique. Se voir comme à la loupe et au télescope, intime et détaché. Ainsi, au cours d'un échange, quelle écoute avons-nous de ce que l'autre voudrait exprimer ? Chacun est impatient de dire ce qui lui vient à l'esprit, comme pour déposer en l'interlocuteur un signe personnel, une marque territoriale. Nous cherchons par tous les moyens à être reconnus en tant qu'êtres humains, existants. De cela, nous n'avons évidemment pas conscience, car affairés à la conversation, nous ne voyons pas plus nous-mêmes que nous n'écoutons l'autre. Il s'agit d'un regard innocent, dégagé de tout passé psychologique. Tout peut changer. Il y a un effet de surprise. L'attention est prise au dépourvu. L'apparu a envahi le champ. C'est un regard qui est à la fois en profondeur et à la fois enveloppant. Je quitte la surface de la personne et je la regarde en la ressentant, dans sa façon d'être, avec beaucoup d'humanité. C'est un regard qui n'étreint pas, qui enveloppe, qui ne menace pas, qui protège, qui ne referme pas, qui ouvre. Et sans doute laisse-t-il la place à la poésie en ce sens où, comme je disais au début de la définition, poésie est vérité, se présenter nu à ce qui est, tout en restant ouvert à autre chose qui surviendrait. Donc là, je vais vous parler de Cédric, un patient donc, que j'ai rencontré sur une unité d'hospitalisation. Je l'ai accompagné à peu près pendant 10 ans. C'est un jeune homme très grand, élancé, très mince, très beau, qui s'est abîmé bien sûr par la souffrance et par les traitements qu'il a pris, mais il a gardé une beauté vraiment très forte. Et ce patient, pour le rencontrer, ben, je suis allée vers lui et il était souvent assis sur le banc dans les couloirs. Donc je me suis dit, tiens, c'est vraiment le lieu qu'il affectionne, donc j'allais m'asseoir à côté de lui. Et donc je lui disais, ben, Cédric, c'est Isabelle, voilà, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous ? Donc, comme il ne criait pas, parce qu'il crie pour... Il sent la personne avec des sens qu'il a développés, parce que c'est une personne qui est aveugle, j'ai oublié de vous dire, il est aveugle, il a perdu la vue au long des années, et il s'exprime avec des mots, mais des mots pour communiquer, c'est-à-dire quand il a soif, il dit soif, quand il a faim, il dit pain, quand il veut un bain, il dit bain, enfin, il s'exprime par des mots clés pour se faire comprendre. Et donc là, ben, du coup, je lui dis, ben, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous ? Donc là, il me touche le bras, il vérifie que c'est moi. Et au bout d'un moment, je sais qu'au toucher, il sait que c'est moi. Je n'ai pas besoin de lui dire éducatrice. Il sait très bien qui je suis. Et à la voix aussi, puisqu'il a développé un sens très aigu du son. Et donc avec lui, ben, je suis rentrée. Alors j'ai un texte, je ne sais pas si vous le lirez, mais... J'ai cette expression, je me glisse dans son existence de silence, c'est-à-dire que comme il ne dit rien, il ne parle pas, moi c'est pareil, je me tais. Et je suis à côté de lui, et là tout d'un coup, bah, c'est une sacrée aventure que je vis avec lui, puisque autour de nous, bah, les patients, voilà, il déambule, les soignants ils arrivent, et puis Cédric, et bah, lui il est complètement à l'affût du moindre bruit. Si bien qu'à un moment donné, il crie, puis on ne comprend pas, mais moi je comprends très bien, c'est qu'il a entendu à quelques mètres de là une clé tourner dans la serrure. Et du coup, les soignants me disent, mais qu'est-ce qu'il a encore à crier ? Mais moi je dis, mais non, mais il crie parce qu'il entend la clé tourner dans la serrure. Et donc, il sait que quelqu'un va venir, et comme il est aveugle, eh ben, il a peur de qui va venir, il ne sait pas qui va venir, il ne maîtrise pas du tout. Donc, ça, c'est un petit peu le premier point que je découvre avec lui. Et puis après, ben, j'instaure un accompagnement, mais pareil, toujours à son niveau à lui, quoi. Donc, je lui propose un bain, voilà. Donc, le matin, c'est souvent une personne qui se souille, hein, voilà. Et du coup, je me dis, ben, j'aimerais bien lui donner un bain, mais il faudrait qu'il soit intégré dans son quotidien. C'est pas un bain à 4h de l'après-midi, c'est un bain le matin, quoi. Là où il y a besoin d'aller dans l'eau. Donc, je modifie mes horaires. Au lieu d'arriver à 9h, ben, j'arrive à 8h, 8h15. Et donc là, souvent, j'arrive dans la chambre. Il a été douché par les soignants, mais il m'attend pour le bain. Donc, il est tout nu, souvent. Et là, donc, j'arrive, et là, c'est assez cocasse, parce que si par exemple j'arrive et je lui dis je vais prendre vos vêtements Cédric et je vais dans la salle de bain, je vais tout préparer, il va pas comprendre, il va vouloir me suivre. Alors là ça va être horrible, je vais pas pouvoir rien préparer, donc je suis obligée de préparer le bain en amont. Et quand je vais le chercher, et ben du coup je lui dis: Cédric, vous attendez, je vais ouvrir le placard et je vais prendre vos affaires, mais vous m'attendez, on ira ensemble dans le bain. Et du coup là, ben, je l'enveloppe dans un grand drap. Donc il faut m'imaginer, à droite j'ai la pile de vêtements, à ma gauche j'ai ce grand Cédric qui est vraiment plus grand que moi, et du coup je l'enveloppe, je prends comme ça le drap, et là c'est magique, parce que là, peut-être la poésie elle arrive, c'est-à-dire que là j'ai l'impression de l'envelopper, et c'est très beau ce que je fais, parce que je le vois, il est très beau, enveloppé dans un drap blanc, en plus il a une silhouette très fine, donc il glisse, et puis j'ai l'impression de... Bah, d'accompagner un philosophe dans sa toge, ou alors j'imagine, je sais pas, un Romain, enfin, et du coup on va tous les deux comme ça dans la salle de bain, et on arrive dans la salle de bain, et j'ai mis la musique, donc c'est souvent Agnès Obel, une musique très douce, et là pareil, magie à nouveau, il enlève son drap, donc il se retrouve tout nu, il plonge dans l'eau, et là, bon, bah, je peux pas dire qu'à chaque fois je mentirais si à chaque fois ça serait la magie, c'est pas vrai. Mais il y a eu beaucoup de moments où il m'a parlé dans le bain. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « Oh, bain », tout ça, là, il commence à me faire des phrases. C'est-à-dire, il était très attaché, j'ai su par la suite, très attaché à son grand-père qui est décédé. Et là, il me fait comprendre « Papy, voiture ». Donc, il ne peut pas dire « Je veux partir avec mon papy », mais il me dit des mots que je peux assembler et que je peux comprendre comme ça. Et ça me bouleverse, parce qu'à chaque fois, ben, moi je ne demande rien, hein. Je me tais, on écoute la musique, c'est lui qui me livre ses mots. Voilà, donc ça c'est un accompagnement un petit peu sur la durée, où j'ai pu l'amener vers après des activités. Alors c'était galère, hein, parce qu'il ne supporte pas d'être enfermé dans une pièce, fermer la porte, c'était terrible. Donc je l'emmène en activité, je laissais la porte ouverte avec les autres patients. Je disais, il y avait toujours une place pour Cédric, je disais: Cédric, vous pouvez venir nous voir. Donc il venait, il s'asseyait. Si ça ne lui plaisait pas, il repartait tout de suite. Et si ça lui plaisait, ben, il restait en retrait. Et il était là avec nous. Il y a eu des moments comme ça, très poignants, où il s'est mis à pleurer. Et du coup, il ne pleure jamais. Et je me suis entendue lui dire, « Mais c'est dur, l'hôpital. » Tout d'un coup, je suis dans un moment très ébranlé moi-même, humainement. Et là, bien sûr, il ne me répond pas. Mais en tout cas, il m'a livré des choses de lui... grâce à cet accompagnement que j'ai instauré avec lui de longue haleine, hein. J'ai pas fait ça en 3 jours, hein. J'ai fait ça vraiment, il m'a fallu des mois pour entrer, le rencontrer, une vraie rencontre, et après j'arrivais à décoder même les cris, puisque les soignants me disaient: oui, il crie, mais je dis non, mais il y a les cris de faim, il y a les cris d'angoisse, il y a les cris, il est tyrannique, il a envie tout de suite de quelque chose, et il ne faut pas céder, il faut aussi lui donner des limites, parce que ça le construit, et aussi dans l'opposition où cette personne m'a montré aussi des choses très fortes de lui, il ne faut pas qu'on se laisse faire non plus, hein. Il a du caractère, et c'est ce que j'aimais beaucoup en lui, c'est ça, c'est son caractère, sa forte personnalité qui m'a laissé voir, voilà. Donc ça, c'est Cédric dont je voulais vous parler. Et puis, comme disait Patricia l'autre jour, Thibaut. Alors Thibaut, lui, je le rencontre, je ne le connais pas du tout. Thibaut, c'est une personne qu'on dit autiste, que je rencontre à un atelier de mosaïque. Première fois de ma vie que je le vois.
Et donc, il faut s'imaginer, pareil, un patient... D'ailleurs, je vais vous lire un texte de lui. Comme ça, vous verrez un peu plus comment il est. Il arrive aérien, virevolte dans le couloir de bureau en bureau, ouvre la porte de l'atelier d'une main légère. Nouveau lieu, les autres déjà là, le surprennent à peine. Il compose sa mosaïque qu'il peint en rose corail. De temps en temps, son regard nous croise. De temps en temps, il nous répond. Pour le reste, c'est son secret à lui. Quelques bribes de phrases, là et ici, s'échappent de son monologue. On en retient vite une, c'est joli. Aussitôt dite, aussitôt enfuie, ainsi va la poésie. Donc lui, c'est une personne donc, qui arrive... je ne sais pas si vous avez un petit peu en tête les personnes autistes. Alors, dans le grand public, on connaît beaucoup les personnes autistes, Asperger, de haut niveau, qui connaissent les bottins par cœur, enfin, tout ça. Nous, en psychiatrie, on a rarement ces personnes-là. On en a aussi, Sandrine a travaillé avec des personnes de haut niveau. Mais nous, dans les unités où j'ai travaillé, c'était plutôt des personnes sans langage, avec une déficience sévère. Et donc, ces troubles autistiques, c'est... leur donne une étrangeté, c'est-à-dire que quand ils arrivent, on les accompagne d'un point A à B, ils ne vont pas droit dans le couloir. Ils vont aller toucher les portes. Et si une porte est ouverte, ils vont rentrer dans le bureau, ils vont faire le tour de la salle, ils vont ressortir, ils vont s'accrocher à quelque chose dans le couloir que nous, on n'aura pas remarqué. Une lumière, ça peut être une lampe, enfin ça peut être même un... mais rarement un être humain. C'est beaucoup dans l'environnement spatial où ça se passe. Mais ce n'est pas grave. Vous allez voir après pourquoi. Donc ce patient, on l'accueille en atelier mosaïque. Et là, il arrive. Donc tous les patients sont là. Moi, je suis là. Tout le monde est là. Il ne nous regarde pas. C'est comme si on n'existait pas. Lui, ce qu'il regarde, c'est l'espace. Enfin, c'est ce que je crois qu'il regarde. Hein. Donc il fait le tour de la salle. Il passe derrière les autres patients, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, ça peut être inquiétant pour les autres qui ne sont pas autistes. Hein. Mais bon, les autres, ils ont l'air de dire, bon, écoutez, on va le laisser faire. Et après, il s'assoit. Et là, il y a un dialogue entre l'artiste et ce patient, parce que c'est une artiste plasticienne qui est là pour lui faire de la mosaïque. Moi, je suis en face de ce patient et je le dévore du regard. Je le regarde, mais alors je regarde tout ce qu'il fait, quoi. Et donc, je vois beaucoup de choses. Alors, je pense qu'il y a de l'expérience en moi. Forcément, je vois qu'il se tend. Parce que l'artiste, elle ne connaît pas vraiment l'autisme. Elle ne sait pas que quand on parle à quelqu'un, quand on lui dit « il faut faire ça, faire ça », c'est déjà presque une menace pour eux. On va presque les envoyer dans leur retranchement, quoi. Donc, je sens une tension corporelle. Et là, je me dis « oula ». Alors j'essaye du coup d'envelopper tout ça d'une grande enveloppe moi-même. C'est-à-dire que l'artiste est en train d'intruser un peu cette personne, mais moi, mon regard, il va envelopper les deux. C'est-à-dire, je me dis, je suis là au cas où. Donc je veille. Ça se passe bien. Il arrive à faire sa mosaïque comme beaucoup d'autres. Et après, bien sûr, toujours avec cette envie de s'échapper. Donc il s'échappe à nouveau, il va faire le tour à nouveau de la salle. Mais on a compris, tout le monde a compris, il va se rasseoir à nouveau. Et il revient. Et à ce moment-là, c'est là où la petite magie, toujours, on a une petite magie, comme dit Patrice, avec ses patients, il y a une petite magie de... Et là, l'accompagnatrice a remarqué que ses lacets étaient défaits. Donc elle dit, Thibaut, je vais te remettre les lacets. Et là, qu'est-ce que je vois à nouveau? Bien sûr, pour refaire les lacets de quelqu'un, il faut s'approcher de sa bulle, parce qu'ils ont une bulle. Et là, je sens que Thibaut, il est à nouveau inquiet, tendu. Et là, à nouveau, pareil, j'enveloppe. Donc, je crois que je dis des mots. Je dis, ça va aller. J'essaie d'être le plus douce possible. Il ne me regarde pas. Hein. C'est comme si je n'existais pas. Et à la fin de cette scène, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient m'embrasser sur la joue. Un baiser volé. Alors qu'il ne m'avait pas du tout regardé dans la scène. Je n'existais pas. Et ça, c'est très émouvant parce qu'après, ben, il est parti, bien sûr, il est parti. J'ai gardé son baiser sur la joue. Et du coup, je vous disais qu'il ne regarde pas les humains, mais ce n'est pas vrai. Il savait très bien qu'on était là. Alors, est-ce qu'il regarde comme nous on regarde? Je ne pense pas, mais je pense qu'il ressente la présence de quelqu'un. on en revient toujours à la présence de l'autre dans la relation. Voilà, alors ça, c'est des patients en psychiatrie. Puis du coup, est-ce que j'ai le temps encore ?
Oui, bien sûr.
Des exemples en maraude. Alors là, on va basculer dans autre chose encore. Ça risque d'être un peu émouvant pour moi parce que la personne dont je vais vous parler, elle est partie. Elle est partie, voilà. Ils ont une durée de vie très très petite. Et donc c'est Yvan. Et Yvan, je vais vous en parler tout de suite à travers un texte que j'ai écrit. Autour du feu d'Yvan, on laissera converger la nuit. On se tient au chaud sous le pont en béton, balayé par les vagues des autos. Assis côte à côte, bénévoles, SDF, les yeux brillent. On ne se parle pas, ou juste on écoute la voix, et les étincelles que fait le bois, et les visages sculptés par les ombres de la vie. Où sommes-nous et qui on oublie? Un instant tous pareils, plongés dans les flammes. On se souvient peut-être d'autres feux, mais on est ensemble, au même moment, presque heureux. Yvan, c'est un travailleur pauvre, ce qu'on appelle un travailleur pauvre, c'est-à-dire qu'il vient de l'Est et il travaillait d'ailleurs dans la maçonnerie. Il avait toujours ses habits immaculés de béton. Enfin, c'était un homme qu'on aimait beaucoup et il avait une fierté. Il disait toujours « Moi, je dors dans la rue ». Il dormait dans une tente sous un pont. « Mais je ne fais pas la manche, je ne demanderai jamais d'argent ». Je me mettrai jamais par terre pour demander l'argent aux autres. Donc nous on écoutait ça, et du coup c'est une personne qu'on avait envie d'aller voir, parce qu'en fait c'était lui qui nous accueillait, quoi. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il avait une telle force qui émanait de lui, de son corps. Il avait un corps très droit, il avait une vision de la vie très sereine. Il était en rupture familiale, il avait quitté sa femme, il avait ses enfants aussi, et il était en rupture un peu sociale, mais il avait une fierté d'être ce qu'il était, quoi. Et c'était tellement beau à voir que nous, quand on faisait des maraudes, donc on allait voir les gens signalés par le 115, et quand il nous restait un petit moment, on disait toujours entre nous, entre bénévoles, on disait bah, « qui c'est qu'on va voir ?» Et tout le monde disait « on va voir Yvan ». Parce que Yvan, il nous accueillait tout le temps. Et c'était ça qui était beau chez lui, c'est qu'il y avait une... Je ne sais pas comment vous dire, il avait son feu. D'ailleurs, je me rappelle toujours de cette scène où on était autour du feu. Et c'était lui qui nous parlait, c'était lui qui nous rassurait presque. C'était ça qui était fort chez lui, voilà. Et cette personne, voilà, est tombée malade, a eu un cancer et il a décidé de ne pas se soigner. Voilà, c'est ça qui est triste. C'est qu'il est parti trop vite, en fait. Il avait 40 ans, je crois. Voilà. Mais on restera toujours en mémoire... Enfin, on gardera toujours mémoire de lui. Donc, c'est une personne qu'on allait voir souvent. Après, dans le fugitif, puisque du coup, j'alterne durée et fugitif, un peu comme je disais à Patricia, les éducateurs, on accompagne au long cours les personnes, bah, comme les psychologues, hein. Mais il y a aussi des personnes qu'on ne voit qu'une fois. Et en maraude, ben, ça nous arrive aussi de voir une personne et on ne la revoit plus après. C'est dur, hein, mais il faut savoir que c'est comme ça. C'est des personnes qui nous échappent. Et voilà. Donc, il y a une personne, je vais vous lire. Alors, c'est une personne que je n'ai pas rencontrée en maraude. C'est une personne que j'ai rencontrée dans la vie de tous les jours. Mais je savais qu'elle était dans la rue et j'allais au cinéma. Et donc, ça se passe dans le tram. Elle monte peu après moi dans le tram. Je sais à son odeur âcre qu'elle vit dans la rue. Elle porte un cabas en plastique, un bonnet, sa peau est toute fripée. Aussitôt, le jeune premier à la mèche rebelle se lève, ainsi que la femme noire. En face d'elle, reste plus que moi. Et comme si le bonnet ne suffisait pas à la cacher, elle met aussi sa main sur la moitié de son visage et regarde par la fenêtre ostensiblement, comme pour ne pas déranger. J'ose un regard, sans insister. Sa peau porte les cicatrices d'une peau brûlée. Elle porte deux manteaux en nylon noir et limé. À un moment, court moment, elle ose jeter sur moi un œil, visage apeuré, osant moi aussi le mien, incertain. Moment vulnérable de la rencontre de deux existences, presque aussi mal assurées l'une que l'autre, que nous partageons à ce court instant malgré des vies si différentes, dans un tram bondé, entouré de gens debout, rivés sur leur portable ou leur bavardage indifférencié. Voilà, elle, je ne l'ai jamais revue, hein, mais c'était une personne très bouleversante. Voilà, elle, vraiment, ce bonnet m'avait marqué, elle avait caché son visage, et après, elle savait qu'on la regardait dans le tram, donc elle avait caché l'autre moitié. Et elle regardait par la fenêtre parce que elle ne voulait pas imposer son visage aux autres, en fait. C'était ça qui était poignant. Je crois que au niveau des exemples que j'avais, que je voulais vous parler, je crois que j'ai fini. Et après, je voulais terminer par un texte de Thomas Mingy, qui est un poète canadien, qui lui justement parle de la précarité de la poésie, ce qui la rend belle. Il s'agit de la trouver, de la chercher quand elle est là. Il lui faut aller vers vous, et quand elle s'arrête, et si elle arrive, elle n'est plus là. On dit la poésie fugitive. Elle vient à pas léger jusqu'à nous, puisque même celui qui la connaît de longue date reçoit chacune de ses visites comme une chose imprévue. Elle peut faire penser à cette vieille tante qui introduisait son nez dans l'embrasure de la porte le dimanche, quelques minutes avant le souper, quand plus personne n'était attendu. Un petit coucou, et puis c'est fini. Mais la grâce est que cette brièveté, presque une inexistence, trouve le moyen de durer en nous. La poésie est d'ontologie quasi négative. Elle vit de peu et le trop l'effarouche. Peut-être que la sincérité dont la poésie a fait grand cas n'avait d'autre but que de se transformer en ouverture. Je veux dire en une largeur objective du cœur et de l'esprit où l'on sent tout à coup notre vérité se faire. La poésie manque de visibilité, mais quand elle ressemble à une fête de quartier, on finit par perdre de vue que rien n'égale les circonstances discrètes de la lecture privée pour en éprouver les puissances et s'y soumettre. Nombre de lectures subsistent en nous comme des petits feux sacrés dont les crépitements ne seront jamais ébruités. Il entre peut-être une dose de jalousie dans l'amour de la poésie, de sorte qu'on l'emprisonne pour la garder au plus près de soi. On n'en parle pas. On ne sait jamais si un poème brûle au fond d'un ou d'une inconnue. Finalement, la poésie s'accommode de ses solidarités mystérieuses pour continuer confidentiellement à exister. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire. Et après, ben... j'avais d'autres choses, mais après ça tourne vers la philosophie parce que je me suis rendu compte que la rencontre, ben, c'est Buber. On était en plein dans le sujet. Et puis aussi le visage, ben, Lévinas, devant le visage, on est responsable de l'autre et que l'autre nous demande la sollicitude. Enfin, ça, je l'ai vécu en maraude très fortement. Mais je ne voulais pas en parler parce que je ne me sens pas capable d'aborder ces philosophes. Voilà. Mais j'avais mis des textes. Un petit peu pour... ils m'ont soutenu, quoi. Enfin, j'ai pensé à eux, voilà. Voilà, c'est fini. Merci. Et j'avais amené des livres aussi.
Vas-y.
Le livre, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est un livre, justement, Le visage de l'autre, que vous pouvez regarder. C'est un raccourci de Lévinas, mais du coup, c'est avec des dessins que je trouve très beaux. Et puis, voilà, après, les personnes qui m'ont nourri dans ce texte, Fabrice Midal qui a écrit ce livre qui est très beau et très simple sur la poésie. Et franchement, je le trouve très très clair. Et je m'en suis servie au début pour la définition que je vous ai faite. Parce que franchement, il n'y a pas besoin de retoucher. Il dit les choses telles quelles. Je le trouve limpide et très intéressant. Il parle aussi de la philosophie.
On peut le faire sur lui.
Oui, oui, bien sûr. Et puis après, bah, Marina Tsvetaeva, bah, c'est celle qui dit que la poésie... et un centimètre au-dessus, voilà, qui nous fait respirer. Voilà, la poëtesse russe. Bon, après, c'est le plaisir, hein, Reverdy, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un poète, je ne sais pas s'il est très connu, mais il dit des choses très, très, très belles, très secrètes. Hein. Il fait parler un vase de fleurs, enfin, c'est très beau. Voilà, ensuite, ben, Thomas Mingy, je l'ai découvert dans cette revue de poésie, parce que la poésie, il y a beaucoup de revues, en fait. Hein, voilà, dans cette revue aussi. Oui. Je vous fais les circuler. Hein, parce que... Et puis, qu'est-ce que j'avais encore? Alors, Paul Celan, voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui est très très fort. Hein. C'est, oui. Peut-être même que je ne connais pas assez bien, en fait. C'est quelqu'un qui est assez hérémétique quand même. Hein, mais,
il s'est suicidé, d'ailleurs.
Comment? Il s'est suicidé, oui. La famille a été déportée.
Oui.
Ouais. Une vie douloureuse. Et puis, bien sûr, comme je disais à Lia, De Clercq. Alors ça, c'est la Bible pour ceux qui s'intéressent aux gens dans la rue. C'est un très beau livre qui s'appelle Les Naufragés. Je vais vous faire circuler. Hein. Et lui, il a essayé de soigner pendant 15 ans les gens dans la rue. Il en a sauvé très, très peu. Voilà. Et c'est poignant. Il s'est beaucoup attaché à ces personnes. Longtemps après, il dit qu'il leur manque. Et moi, ça fait... j'ai maraudé pendant 4 ans. Et c'est vrai que ça me manque aussi d'aller dans la rue, de les rencontrer. Voilà. J'ai peur d'y retourner parce que je crois que il faut être très courageux. Et des fois, je crois que je manque de courage maintenant. Mais j'aimerais beaucoup y retourner. Je pense que c'est une expérience très très forte dans une vie, quoi, d'aller voir ces personnes-là dans leur lieu de vie, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez... voilà. Bon, je partageais. Et puis voilà. Donc, et là, ça, c'est le livre donc, qui vient de sortir avec mes textes uniquement sur les maraudes. Donc, les rencontres avec les gens dans la rue, avec des photos de ma fille. Voilà, si vous voulez le regarder aussi, je...
Et donc, tu en as mis des exemplaires.
Oui, j'en ai mis des exemplaires. Oui, vous pouvez l'acheter, oui. Voilà, avec des photos de ma fille, parce que j'ai une fille qui s'intéresse à la photo. Et je lui ai demandé de participer à ce projet, ça me tenait à cœur, parce que c'est elle qui est à l'origine de mes maraudes, puisqu'elle m'a dit, maman, ça devrait te plaire, De Citre organise des maraudes, et on propose des livres aux gens dans la rue. Bah, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Donc j'y suis allée par le biais du livre. Et du coup, bah, c'est grâce à elle. Et quand je suis arrivée avec ma petite caisse de livres, et ben, au bout d'un moment, j'ai vu que l'éducatrice, elle est sortie de là. Parce que le livre, c'était un prétexte, en fait. J'étais plus pour la relation, les écouter. Donc j'ai vite laissé tomber les livres. Je ne m'en occupais pas. Mes collègues me disaient, t'as donné beaucoup de livres. Je disais, ben, je n'ai même plus. J'ai écouté telle ou telle personne. C'était ce qui était le plus important pour moi, quoi. Voilà.